Chapitre 22. Le lieutenant-colonel Gérard Hamilton n'eut pas l'air emballé à l'idée de parler à Didi et Bobby. Résigné à son sort, plutôt. Un de ses agents était impliqué dans une regrettable affaire. L'équipe d'enquêteurs allait naturellement devoir l'interroger. Par courtoisie, Didi et Bobby lui rendirent visite dans son bureau. Il serra la main de Didi et accueillit Bobby en le prenant familièrement par l'épaule. Il sautait aux yeux que les deux hommes se connaissaient et Didi se félicita de la présence de Bobby. Sans lui, Hamilton ne se serait peut-être pas montré aussi confraternel. Elle laissa Bobby assurer la direction de l'entretien pendant qu'elle-même examinait le bureau de Hamilton. La police d'État du Massachusetts était connue pour son attachement à sa hiérarchie de type militaire. Si Didi travaillait dans un modeste bureau paysager dont la décoration évoquait le milieu de l'entreprise, le bureau de Hamilton lui faisait en revanche penser à celui d'un politicien aux dents longues. Sur les murs lambrissés, des photos montraient Hamilton en compagnie de tous les hommes politiques qui comptaient dans l'État, et sur l'une d'elles, particulièrement imposante, il figurait aux côtés du sénateur républicain Scott Brown. Didi repéra un diplôme de l'Université du Massachusetts à Amherst, un autre de l'Académie du FBI. L'impressionnant alignement de ramures au-dessus du bureau du lieutenant témoignait de ses talents de chasseur, et au cas où cela n'aurait pas suffi, une autre photo montrait Hamilton en treillis vert et veste de chasse orange à côté d'une proie fraîchement abattue. Didi ne s'attarda pas trop sur cette photo. Elle commençait à avoir l'impression que bébé Warren était végétarien. Burke, la viande rouge, les céréales, fallait voir.
« Je connais l'agent Léonie naturellement », expliquait Hamilton.
C'était un haut gradé, l'air distingué, affûté, une carrure athlétique, des cheveux bruns grisonnants aux tempes, le visage hâlé en permanence après des années passées au grand air. Didi aurait parié que les jeunes recrues masculines l'admiraient ouvertement, tandis que les jeunes recrues féminines le trouvaient secrètement sexy. Tessa Léonie était-elle l'une d'elles? Et ce sentiment était-il réciproque?
Un bon élément, continua-t-il sur le même ton. Jeune, mais compétente. Pas d'incident ni de plainte à signaler.
Hamilton avait le dossier de Tessa ouvert sur son bureau. Il confirma qu'elle avait travaillé dans les nuits de vendredi et de samedi. Bobby et lui parcoururent ensuite ses mains courantes, dont l'essentiel restait obscur à Didi. Le travail d'un enquêteur consiste en enquête en cours, affaires élucidées, demandes de mandat, interrogatoires, etc. Celui d'un agent en tenue consiste, entre autres, en contrôle routier, amende pour infraction au code de la route, demande d'intervention, exécution de mandat, confiscation de biens et appel en renfort à n'en plus finir. Aux yeux de Didi, cela ressemblait plus à du basket qu'à du travail de police. Les agents passaient leur temps soit à siffler des fautes, soit à aider leurs collègues à arbitrer. Quoi qu'il en soit, Tessa avait des mains courantes particulièrement fournies, même vendredi et samedi soir. Rien que dans la nuit du samedi au dimanche, elle avait procédé à deux arrestations pour conduite en état d'ivresse, ce qui, dans le deuxième cas, l'avait obligée non seulement à emmener le conducteur en garde à vue, mais à organiser le remorquage du véhicule.
Bobby fit la grimace.
« Vous avez vu les procès-verbaux ? »
demanda-t-il en pointant ces deux arrestations.
« Son supérieur me les a transmis il y a quelques heures. Ils sont corrects. »
Bobby regarda Didi.
« Alors c'est clair qu'elle n'avait pas de commotion cérébrale samedi soir. Je suis déjà pratiquement incapable de remplir ces formulaires quand je suis en pleine possession de mes moyens, alors avec un gros traumatisme crânien, je ne te dis pas. »
« Elle a pris des appels personnels samedi soir ?» demanda Didi au lieutenant. Hamilton l'ignorait.
Les agents patrouillent avec leur portable personnel, pas seulement leur beeper de service. Il est possible qu'elle ait pris toutes sortes d'appels personnels. Rien qui soit passé par les canaux officiels, cela dit.
Didi le nota. Elle était surprise que les agents soient encore autorisés à emporter leur mobile. Beaucoup de forces de l'ordre commençaient à les interdire parce que les agents en tenue, souvent premiers arrivés sur les lieux d'un crime, avaient une fâcheuse tendance à s'en servir pour prendre des photos. Il trouvait une tête rigolote au type qui s'était fait sauter la cervelle, ou alors il voulait montrer cette éclaboussure de sang particulière à un pote d'un autre commissariat. Mais au regard de la loi, toute photo de scène de crime constituait une pièce du dossier et devait être communiquée sans restriction à la défense.
Autrement dit, si de telles photos apparaissaient au grand jour une fois l'affaire jugée, leur seule existence pouvait entacher le procès d'un vice de procédure. Les procureurs n'appréciaient pas vraiment. Ça les mettait d'une humeur massacrante. « Est-ce que Léonie aurait fait l'objet de blâme ?» demanda Didi. Hamilton fit signe que non. « Est-ce qu'elle aurait pris beaucoup de congés, pour convenance personnelle par exemple ? C'est une jeune maman, seule avec un enfant la moitié du temps. » Hamilton feuilleta le dossier, secoua la tête.
« Admirable, » commenta-t-il. « Difficile de répondre à la fois aux exigences de ce métier et aux besoins d'une famille. »
« Amen, » murmura Bobby. Ils avaient tous les deux l'air sincères. Didi se mordit la lèvre. « Vous la connaissiez bien ? » demanda-t-elle brusquement. « Activité pour renforcer la cohésion d'équipe ? Sortie pour prendre un verre, ce genre de choses ?» Hamilton se montra cette fois hésitant.
« Je ne la connaissais pas vraiment, » dit-il enfin. « L'agent Léonie avait la réputation d'être distante. Certaines de ses évaluations annuelles y font allusion. Un bon agent, très fiable, un jugement sûr. Mais elle avait tendance à se tenir à l'écart. Ça nous inquiétait un peu. Même les patrouilleurs qui travaillent seuls la plupart du temps ont besoin de sentir la cohésion du groupe, de se sentir assurés qu'un collègue couvre toujours leurs arrières. Les collègues de Léonie la respectaient professionnellement, mais aucun n'avait l'impression de la connaître personnellement. Et dans ce métier, où la frontière entre vie privée et vie professionnelle est souvent floue,
Hamilton laissa sa phrase en suspens. Didi comprit ce qu'il voulait dire et en fut intrigué. Faire respecter la loi n'est pas un simple gagne-pain. On ne se contente pas de pointer, de faire son boulot et de passer le relais à ses collègues. C'est une vocation. On se consacre à son travail, on se donne à son équipe et on se résigne au mode de vie qui va avec. Didi s'était demandé si Tessa n'était pas trop proche d'un collègue ou même d'un gradé, comme le lieutenant. Mais apparemment, elle versait plutôt dans l'excès inverse.
« Je peux vous poser une question ?»
demanda brusquement Hamilton.
« À moi ?»
Surprise, Didi accepta.
« Vous socialisez avec vos collègues ? Le temps de prendre une bière, de partager une pizza froide, de regarder un match chez l'un ou chez l'autre ?»«
Bien sûr, mais je n'ai pas de famille et je suis plus âgée. Tessa Léonie, une jeune et jolie maman face à une caserne exclusivement masculine, c'est votre seul élément féminin, n'est-ce pas ?
À Framingham, oui.
Il n'y a pas beaucoup de femmes sous l'uniforme. Si elle évitait de trop fraterniser avec ses collègues, je n'irais pas lui jeter la pierre.
Nous n'avons jamais eu la moindre plainte pour harcèlement sexuel,
précisa immédiatement Hamilton. Il y a des femmes qui n'ont pas envie de se lancer dans ce genre de procédure. Ses propos ne plurent pas à Hamilton. Son visage se ferma, il devint intimidant. Cassant même.
Au niveau de la caserne, nous encouragions le supérieur de Léonie à multiplier les occasions où elle pourrait se sentir intégrée. Disons que les résultats ont été mitigés. C'est certainement difficile d'être la seule femme dans un service à dominante masculine. D'un autre côté, Léonie elle-même n'avait pas l'air de vouloir combler le fossé. Pour parler franc, elle était un peu sauvage. Et même les agents qui s'efforçaient de se rapprocher d'elle,
« L'agent Lyons, par exemple ?» l'interrompit Didi.
« L'agent Lyons, par exemple, » confirma Hamilton. Leurs tentatives n'ont rien donné. Travailler en équipe suppose de gagner le respect et le cœur de ses collègues. De ce point de vue, l'agent Léonie ne remplissait que la moitié de son contrat.
« À propos de gagner les cœurs, » reprit Bobby d'un air penaud comme s'il lui coûtait de rabaisser le lieutenant au rang d'un colporteur de ragots.
« Est-ce que vous auriez eu vent d'une liaison entre Léonie et un autre agent ? Ou peut-être des sentiments qu'un de ses collègues lui aurait portés, même s'il n'était pas réciproque ?»« Je me suis renseigné. Il semblerait que l'agent le plus proche de Léonie ait été Shane Lyons, mais il était plus lié à son mari qu'à elle-même. »«
Est-ce que vous le connaissiez ?» demanda Didi avec curiosité. « Le mari, Brian Darby, ou bien sa fille, Sophie ?»
« Je les connaissais tous les deux, » répondit Hamilton avec une gravité qui surprit Didi. Croisés à l'occasion de divers barbecues ou réunions de famille au fil des ans. Sophie est une jolie petite fille, très précoce, si je me souviens bien.
Il s'assombrit comme en proie à une lutte intérieure.
On voyait que l'agent Léonie l'aimait énormément.
Dit-il d'un seul coup. Du moins, c'est toujours l'impression que j'ai eue en les voyant ensemble, cette façon qu'elle avait de la porter, d'être en adoration devant elle. L'idée...
Il détourna les yeux, s'éclaircit la voix et joignit les mains sur son bureau devant lui.
Une bien triste affaire, murmura-t-il comme pour lui-même.
Et Brian Darby ? Relança Bobby.
Je le connaissais depuis plus longtemps encore que Tessa. Brian était un bon copain de Lyons. Il y a bien 8 ou 9 ans qu'il a commencé à venir à nos barbecues. Il se joignait même quelquefois à nous pour aller voir un match des Boston Bruins, venait de temps en temps à une soirée poker.
« Je ne savais pas que l'agent Lyons et vous étiez si proches, » fit remarquer Didi. Hamilton lui lança un regard sévère.
« Quand mes agents m'invitent à une fête, j'essaie toujours d'y aller. L'esprit de camaraderie est important et il n'y a rien de tel que ces réunions informelles pour entretenir le dialogue entre les agents et la hiérarchie. » Ceci posé, je sors avec l'agent Lyons et ses poteaux, comme il dit, quelque chose comme 3 ou 4 fois par an.
« Que pensiez-vous de Brian ?» demanda Bobby.
« Il suivait le championnat de hockey et était aussi fan des Red Sox. Ça en faisait forcément un type bien dans mes tablettes. »«
Vous avez souvent parlé avec lui ?»«
Pratiquement jamais. La plupart de nos sorties étaient du genre sorties entre potes, voir un match, faire un match, parier sur un match. Et oui, »
ajouta-t-il en se tournant vers Didi comme s'il s'attendait à son objection,
« je conçois que de telles activités et pu donner un sentiment d'exclusion à l'agent Léonie. Mais si mon souvenir est bon, elle suit aussi les Red Sox, et ils sont allés voir beaucoup de matchs en famille. »
Didi se rembrunit. Elle avait horreur qu'on lise en elle comme dans un livre ouvert.
« Et l'alcoolisme de l'agent Léonie ?» demanda posément Bobby. « Est-ce que la question est venue sur le tapis ?»«
J'étais au courant, »
répondit Hamilton avec tout autant de flegme.
À ma connaissance, Léonie avait suivi un programme de désintoxication et n'avait pas rechuté. Là encore, ni incident, ni plainte à signaler.
« Et cette affaire qu'il a vu commettre un meurtre à 16 ans ?» demanda Didi.
« Ça, » répondit Hamilton avec accablement,
« ça va nous retomber sur la gueule. »
La brutalité de l'affirmation prit Didi à contre-pied. Il lui fallut un instant pour comprendre. La presse allait fouiller le passé de cette femme fatale et exiger de savoir à quoi pensait la police en embauchant un agent qui avait des antécédents de violence. Clairement, le lieutenant n'avait pas fini de devoir s'expliquer.
« Écoutez, » dit-il, « l'agent Léonie n'avait jamais été inculpée. Elle répondait à tous nos critères de recrutement. Rejeter sa candidature, voilà ce qui aurait été de la discrimination. Et soit dit en passant, elle a décroché son diplôme haut la main et s'est montrée exemplaire dans l'exercice de ses fonctions. Nous n'avions aucun moyen de savoir, aucun moyen de prévoir.
Vous la croyez coupable ? Vous connaissiez son mari, son enfant. Vous pensez que Tessa les a tués ?
Je pense que plus j'exerce ce métier, moins je suis surpris par tout ce qui devrait me surprendre.
Des rumeurs sur des problèmes conjugaux entre elle et Brian ?
Demanda Bobby.
Je serai le dernier au courant. Des changements notables dans son comportement, en particulier ces 3 dernières semaines ?
Hamilton pencha la tête sur le côté.
Pourquoi ces 3 dernières semaines ?
Bobby se contenta d'observer l'officier. Mais Didi comprit. Parce que Brian n'était rentré que depuis 3 semaines et que d'après son coach, il ne respirait pas la joie de vivre depuis son retour.
« Il y a bien un incident qui me revient, » dit d'un seul coup Hamilton, « qui ne concernait pas l'agent Léonie, mais son mari. »
Didi et Bobby échangèrent un regard.
« C'était il y a environ 6 mois, » continua Hamilton,
sans vraiment les regarder.
« Voyons, en novembre, je crois, oui, l'agent Lyons avait organisé une sortie à Foxwood. Nous avons été nombreux à venir, notamment Brian Darby. En ce qui me concerne, après avoir regardé un spectacle et claqué mes $50 au casino où j'avais ma dose. Mais Brian, le moment venu, impossible de le faire décoller. Une dernière mise, ce coup-ci, ça va sortir.
Shane et lui ont fini par se disputer et Shane l'a littéralement sorti du casino par la peau du cou. Les autres ont pris ça à la rigolade, mais c'était assez clair pour moi que Brian Darby ne devrait pas retourner à Foxwoods.
Joueur compulsif ?
Je dirais que son intérêt pour le jeu était supérieur à la moyenne. Que si Shane ne l'avait pas arraché à la roulette, il y serait encore à regarder les numéros tournés.
Bobby et Didi se regardèrent. Didi aurait été plus cliente de cette histoire si Brian n'avait pas eu 50 000 $ au chaud à la banque. En règle générale, les joueurs compulsifs n'ont pas 50 000 $ d'économie. Ils se retournèrent tout de même vers le lieutenant-colonel.
« Est-ce que Shane et Brian seraient allés à Foxwoods dernièrement ?» demanda Bobby. « Il faudrait poser la question à l'agent Lyons.
Est-ce que Léonie aurait un jour évoqué des difficultés financières, demandé à faire plus de nuits, plus d'heures supplémentaires, ce genre de choses ?»«
Avoir ses mains courantes, » répondit lentement Hamilton, « elle faisait plus d'heures ces derniers temps. »
« Mais 50 000 $ à la banque, » songea Didi. « Qui a besoin de faire des heures supplémentaires quand il a 50 000 $ à la banque ?»«
Il y a encore une chose que vous devriez sans doute savoir, » ajouta Hamilton, « mais qui doit rester strictement confidentielle. Comprenez-moi bien. Et il se peut que ça n'ait aucun rapport avec l'agent Léonie. Mais vous avez parlé des 3 dernières semaines. »
Or, il se trouve que nous avons ouvert une enquête interne il y a exactement 2 semaines. Un audit externe avait révélé que des fonds avaient été indûment prélevés sur les comptes du syndicat. L'auditeur pense que ces fonds ont été détournés très certainement par quelqu'un de la maison. Nous essayons de les localiser. Didi ouvrit de grands yeux.
Comme c'est gentil à vous de nous en parler, et si spontanément aussi.
Bobby lui fit les gros yeux.
« Ça porterait sur quel montant ? » demanda-t-il sur un ton plus modéré.
« 250 000 $. »«
Dont on a découvert la disparition il y a 2 semaines ?»«
Oui, mais les détournements ont commencé il y a 12 mois sous forme de versements à une compagnie d'assurance qui s'avère fictive. »«
Mais les chèques ont été encaissés. » »«
Jusqu'au dernier. » »«
Qui les a signés ?»«
Difficile à établir. » Mais ils ont tous été déposés sur un même compte dans le Connecticut, compte qui a été fermé il y a 4 semaines.
La fausse compagnie d'assurance était une société écran, conclut Didi, créée pour recevoir des versements à hauteur d'un quart de million de dollars, puis fermée.
C'est l'hypothèse des enquêteurs.
La banque doit pouvoir vous donner des informations, dit Bobby. Toutes les opérations se sont passées dans la même?
La banque nous a apporté son plein concours. Elle nous a fourni une vidéo où on voit une femme en casquette rouge et lunettes de soleil fermer le compte. C'est devenu la principale piste suivie par l'inspection. Ils cherchent une femme qui aurait eu accès à des informations confidentielles sur le syndicat des agents de police.
« Une femme comme Tessa Léonie, » murmura Didi.
Le lieutenant-colonel ne contesta pas.